les blessures de l'âme. Et donc, vous avez été nombreux. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe ou un mauvais signe que vous soyez là. Toujours est-il, c'est quelque chose qui, évidemment, vous intéresse, hein, si vous avez fait le déplacement, et la question des blessures de l'âme. Alors, on va aller par partie. Grosso modo, trois quarts d'heure de topo, à peu près. Ensuite, il y aura des questions. Et après les questions, il y aura la présentation du vin que l'on va déguster dans une autre salle qui se trouve en haut au premier étage. Qu'est-ce qu'on appelle les blessures de l'âme? D'abord, est-ce que vous avez... On entend souvent la guérison des blessures, des sessions de guérison spirituelle. Et on verra le lien entre les deux. Hein. Les blessures de l'âme, je trouve que c'est tout ce qui nous fait... qui fait nous, qu'on a une certaine souffrance à l'intérieur, dans notre sensibilité. Et cette souffrance, elle peut venir bien souvent d'expérience et souvent de la famille elle-même. C'est la famille qui... a été volontairement ou souvent involontairement a été cause de souffrance pour nous. Je pense prendre un exemple. Je rencontre un homme il n'y a pas très longtemps, une quarantaine d'années, et il est persuadé, alors que je me semble que ce n'est pas tout à fait la réalité, il est persuadé de n'avoir pas été aimé par sa mère, parce que sa mère avait perdu un enfant étant jeune, lui était le deuxième, il dit, de toute façon, il n'y avait plus de place pour moi, et c'est clair que maman a fermé son cœur à ses autres enfants, donc voilà, donc ça a eu... Mais vous voyez, donc la blessure vient d'un fait réel ou d'un fait que l'on a interprété comme tel. C'est-à-dire, on s'est fait des nœuds dans la tête, il nous semble que, en fait... cette souffrance-là vient de telle chose. En fait, c'est simplement la manière dont on a interprété les choses et dont on a vécu les choses. Mais ce à quoi on discerne la blessure, c'est que quand on touche un point, eh bien, il y a une souffrance à l'intérieur. Puis il y a un deuxième point, c'est qu'il y a une réaction suite à cette souffrance qui est disproportionnée. Et ça, je pense, c'est aussi une caractéristique de la blessure. C'est qu'il y a une disproportion entre... le fait extérieur qui vient toucher ma blessure et la manière avec laquelle je réagis. Imaginons, il me semble que j'ai été victime d'abandon. Voilà, j'ai pas été, et c'est souvent dans l'enfance que se nichent les blessures. Hein, et on sait très bien que le passé, on ne sait pas ce que le passé nous réserve comme surprise. Imaginons que, il me semble, voilà, j'ai été victime d'abandon, ou supposé. Réel ou imaginaire. Bon, dans mon entreprise, je n'ai pas le poste auquel je pensais prétendre. Et voilà que je rentre dans une colère, mais qui est absolument disproportionnée par rapport au fait que ce poste-là, personne ne me l'avait promis, et que, évidemment, je n'étais pas le seul non plus à pouvoir l'occuper, etc. Vous voyez, la blessure, il y a quelque chose qui fait qu'un événement, et c'est pour ça, comment on les reconnaît, comment on les traque d'une certaine manière, quand on appuie dessus, eh bien, je vois que j'ai une réaction qui est disproportionnée. Et quand vous voyez que vous avez une réaction qui est disproportionnée, dites-vous, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Pourquoi je réagis de cette manière? Ça peut être la colère, ça peut être la peur. Pourquoi face à certaines personnes, face à certaines situations, je suis comme paralysé de peur? Pourquoi? Je veux dire, alors qu'objectivement, il n'y a rien qui pourrait motiver de façon objective la peur que j'ai en face, que je ressens. Hein. Avoir peur face à un tigre, c'est plutôt bien, parce que la peur, c'est les bonnes conseillères. Mais avoir peur face à toute forme de personne qui représente, par exemple, une autorité, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec l'autorité en général. Et donc, ils arrivent dans le monde professionnel avec, s'ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes et une certaine découverte d'eux-mêmes, ils arrivent dans le monde professionnel et ils voient l'autorité comme une menace. Mais pourquoi est-ce qu'ils voient l'autorité comme une menace? Parce que dans leur enfance, l'autorité qu'avait pu représenter leur père ou mère a été source de souffrance à leurs yeux. Oui, donc je crois que c'est intéressant de voir, de chacun d'entre nous, certains sont plus préservés, d'autres, au contraire, ont eu des enfances plus... ou des familles plus douloureuses, où voilà, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. En revanche, on choisit de ce qu'on va faire de la blessure qu'on a reçue. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a fait ? Peut-être ce qu'on t'a fait, tu n'y étais pour rien. Hein, l'abandon, par exemple, voilà, les séparations des parents. Bon, voilà, l'enfant, ben, il y a des tas d'enfants qui se sentent responsables de la séparation de leurs parents. Ça, c'est hyper connu, c'est, j'enfonce des portes ouvertes. Mais, alors que c'est faux. Mais dans leur tête, c'est clair, c'est eux les coupables. Donc il y aura ce sentiment de culpabilité qui viendra dans leur cœur et qui ressurgira de façon excessive à l'occasion, justement, d'un rapport à l'autorité, alors que c'est... pas avoir de culpabilité. Mais qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je mets en place pour sortir de ça ? Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas reproduire ? Ça, c'est capital, pour ne pas reproduire. On peut être blessé, ou plus ou moins selon les uns et les autres, les histoires familiales des uns et des autres, on peut avoir... Mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour en sortir ? Donc ça, je pense que c'est une première chose, la blessure, donc souffrance, une disproportion, blessure de l'âme, mais qui peut venir aussi de la blessure du corps. Ce ne sera pas le sujet de ce soir, de voir comment le corps, évidemment, parce qu'il y a une unité entre corps et âme, comment notre corps, les blessures qu'on a pu recevoir dans notre corps, que ce soit maladie, handicap, violence physique, abus sexuels, etc., comment, évidemment, à l'intérieur de notre âme, ça ne peut pas être sans conséquence. Mais bon, ce n'est pas le sujet là, de ce soir. Le rôle du corps, évidemment, est essentiel. La différence, on est toujours dans l'introduction, différence entre blessure et péché. Ce n'est pas pareil. Et souvent, on se confesse de blessure alors qu'on devrait se confesser de péché. La blessure, elle est involontaire. C'est-à-dire, la réaction, la personne, je vous explique, comme je vous le disais, face à un poste qu'elle pensait qu'elle réagit de façon complètement démesurée et pas dans une colère incontrôlable, d'une certaine manière, elle n'a pas à s'en confesser. Parce que pourquoi ? Quelle est une caractéristique du péché ? C'est que c'est volontaire. Or, les conséquences des blessures, bien souvent, sont involontaires. Je sens une culpabilité parce que, tout de suite, on dit, tiens, parce que je ne mets pas assez de distance, par exemple, entre mon travail et moi. Et on dit, tiens, c'est vrai que le marché n'est pas très bon, les résultats ne sont pas de l'entreprise. Et tout de suite, je me sens, moi, concerné au premier chef. C'est de ma faute, parce que j'ai cette culpabilité-là qui me vient de je ne sais pas où. Bon, la culpabilité, en tant que telle, voilà, c'est du ressenti, c'est de l'ordre de l'émotion. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour en sortir ? Donc, je pense que c'est important, le péché, il est volontaire. Maintenant, il y a un lien entre les deux, entre blessure et péché. Parce que le démon se met dans nos blessures pour nous pousser à poser des actes volontaires qui nous éloignent de Dieu. Je donne un exemple. Quelqu'un qui n'a pas eu... le sentiment d'avoir reçu assez d'amour dans sa famille. Eh bien, peut-être soit recherche de l'amour de façon désordonnée, soit au plan sexuel, soit en passant de bras en bras, soit avec un mode de relation très tactile, etc. Soit toujours dans... Et du coup, là, ça, c'est volontaire. Je vois en moi un besoin d'être aimé, et de fait, la blessure, c'est une blessure par rapport au besoin d'être aimé et d'être reconnu, qui est un besoin fondamental de la personne humaine. Mais je vois aussi que par rapport à ce besoin-là, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'accueille une certaine solitude ? Est-ce que je mets en place parfois des thérapies qui sont nécessaires pour sortir de ça ? Ou est-ce que je vais de bras en bras ou dans des actes désordonnés ou de recherche personnelle de plaisir, des formes de compensation, hein. Mais ça, la compensation, là, elle est volontaire. Vous voyez, donc, donc on a beaucoup plus à se confesser de la compensation que de la blessure elle-même et des conséquences de la blessure. Donc quand vous confessez, ce à quoi je vous invite avant Noël en particulier, bien c'est toujours dire où a été mon espace de liberté. La personne à qui on a refusé le poste et qui est rentrée dans une colère noire, elle n'avait pas d'espace de liberté. La personne qui, en notre cas, est dans une addiction, par exemple, l'alcoolique, bon, bien souvent, l'alcoolisme, ça vient de blessures, de manque de considération de soi, d'historiques familiaux plus ou moins lourds. Bon, l'alcoolique face à la bouteille, il n'est pas libre. Mais quand il sort de son travail, il y a deux chemins. Il y en a un qui passe devant le bistrot, il y en a un qui ne passe pas devant le bistrot. Là, il a un peu plus de liberté. Et c'est pour ça que quand vous confessez des actes libres, où volontairement vous aviez le choix, mais la tentation, le démon vous a, peut-être s'appuyant sur cette blessure de vouloir avoir de l'amour, de vouloir être reconnu, de vouloir, etc., s'appuyant là-dessus, eh bien, vous emmène là où vous ne voudriez pas aller. Hein, donc, faites bien la différence entre blessure et péché, parce que c'est des choses assez différentes. Hein. D'où proviennent les blessures? Donc, c'est un autre point. Donc, le premier point, c'était qu'est-ce qu'une blessure, la différence avec le péché, le lien entre les deux. D'où proviennent les blessures? Les blessures, elles peuvent provenir bien souvent de la famille. À 80%, c'est de ce que nous avons reçu dans nos propres familles. Hein, ou ce que nous pensons avoir reçu, ou ce que nous pensons ne pas avoir reçu. Hein, j'aurais dû recevoir plus de tendresse de la part de mes parents, et j'estime, voilà, que ça n'a pas été le cas. J'aurais dû avoir plus de sécurité affective, et puis j'étais dans une famille qui était trimballée, je pense à toutes ces familles qui sont sur les routes d'Europe, etc., on voit des enfants, on se dit, mais qu'est-ce que ça va produire dans le cœur de ces enfants, de cette insécurité, de dormir dehors, etc., etc. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences, hein, donc, dans la construction de l'enfant, ensuite. Hein, donc, ça peut être ensuite des blessures qui proviennent d'expériences que l'on a faites, d'expériences personnelles. Je pense, par exemple, à des relations amoureuses qui n'ont pas abouti, hein, qui ont été douloureuses. Et donc, du coup, c'est qui viennent, au fond, peut-être toucher une blessure qui est antérieure, quelque chose qui m'a fait souffrir, mais qui, c'est toujours important quand il y a une relation amoureuse qui n'aboutit pas, qui est une relecture de la relation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'enchaîner relation après relation, parce qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin de tendresse, parce que, évidemment, c'est le meilleur moyen de terminer seul, mais de se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché ? Est-ce qu'il y a eu, dans mon discernement, au préalable, avant de m'engager dans la relation avec tel garçon, telle fille, est-ce qu'il y a quelque chose qui, justement, était de l'ordre de vouloir que l'autre soit un peu une béquille, vienne compenser en moi ce que je n'ai pas reçu ? C'est très vite fait, je veux dire, c'est parce qu'il faut savoir aussi vivre une certaine solitude, moi, que je vous ai dit, je vous prépare beaucoup au mariage, c'est très important, je vous pose la question aux fiancés, mais... est-ce que vous savez vivre seul aussi ? Quelqu'un qui se lancerait dans une relation amoureuse parce qu'il a peur d'être seul, eh bien évidemment, on voit bien que cette relation va être dévorante pour l'autre et ne va pas aboutir. Donc, d'avoir une relecture, donc la famille, les expériences personnelles, je pense que sont des événements, évidemment, ça peut être des deuils, par exemple. Je ne peux pas faire la liste, ça peut être évidemment tous les grands événements terribles de guerre, d'attaque, si on a été attaqué dans sa sécurité physique, dans son intégrité physique, on a été attaqué, évidemment, tout ça, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences dans notre propre vie. Hein. Mais une chose est l'événement qui a pu provoquer, mais j'y insiste, autre chose est la manière dont je le reçois, cet événement. Hein. Et ça, je pense que le travail, il est à faire dans les deux choses. Je veux dire, peut-être j'ai besoin d'un professionnel, d'un psychologue qui m'aider à quelque part à décoder en moi cette manière de réagir que j'aime pas, parce que je trouve que cette manière de réagir ne m'aide pas, et donc pourquoi, d'où ça vient, hein, mais est-ce qu'une fois qu'on a vu d'où ça vient, qu'est-ce que je prends aussi comme moyen pour en sortir et avancer. Les conséquences, autre point, ça va jusque-là, c'est bon est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est bon? Dans le fond, ça, vous m'entendez bien? C'est bon? C'est bien, parfait. Alléluia. Donc, les conséquences de la blessure. Les conséquences, c'est toujours une difficulté dans la relation. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Rend la relation plus difficile, plus douloureuse, plus compliquée, parce que. On est sans cesse en train de se poser des questions, parce qu'on est sans cesse dans l'insécurité, ou parce que, tout simplement, j'ai déjà souffert, et ça, c'est justement par rapport à une manière de se protéger, eh bien, je veux me protéger, je me blinde intérieurement, Je fais tout comme une carapace autour de moi pour ne pas être atteint, au fond, pour ne pas souffrir. Et donc, la conséquence de la blessure, c'est la difficulté dans la relation, difficulté à gérer ses propres émotions. Hein, je vous renvoie au topo que j'ai pu donner au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, sur comment gérer ses émotions. Hein, vous allez sur le site de SPSP, ça a été enregistré comme ce soir, c'est enregistré. Alors, donc je n'y reviens pas parce que bon, on ne peut pas refaire à chaque fois tout. Donc, du coup, c'est une des conséquences, c'est voilà, et c'est même à ça qu'on la reconnaît, c'est que je me laisse déborder, comme submergé par des émotions de colère, d'anxiété, de peur, d'exaltation, ça peut être aussi d'exaltation, ou de joie, ou de, alors qu'il n'y a pas de. Encore une fois, c'est. En face, ce qui provoque cette peur, cette exaltation, cette tristesse, etc., il n'y a pas de commune mesure entre l'événement objectif qui se trouve en face de moi et ce qu'à l'intérieur de moi, c'est ce qui se produit. C'est cette disproportion-là, je pensais. Il me semble, en tout cas, c'est ce à quoi on reconnaît qu'il y a un dysfonctionnement dans notre manière d'agir et de réagir. Hein. Donc, la blessure, donc, elle limite, elle rend plus difficile la relation. Et vous savez, dans les préparations au mariage, à 80% de mon temps, qu'est-ce que je fais dans les préparations au mariage? J'essaye de voir avec le couple qui se prépare en quoi ce que chacun a pu vivre peut aujourd'hui rencontrer une difficulté dans leur relation de couple. Je veux dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de difficulté de couple, il y a des difficultés de personnes qui sont en couple, ce qui n'est pas pareil. Ce serait Gertrude, ce serait Gaston, Maurice, ce serait exactement pareil, simplement parce que toi-même, l'autre fait un effet miroir qui fait que je découvre dans le contact avec l'autre quelque chose que je porte qui pourrait être ce contact et cette réaction exactement la même avec des personnes différentes. Hein, donc c'est toujours intéressant dans la préparation au mariage, en tout cas de décoder qu'est-ce qui vient de la difficulté à vivre ou se projeter dans une vie commune avec un tel, mais une difficulté objective, quelle est la difficulté, au fond, qui vient de moi-même, de ma propre blessure, et difficulté que je connaîtrai, quelle que soit la personne que j'ai en face. Et ça, je pense que c'est parce qu'il y a des gens, justement, qui ils ne font pas la différence. Alors, du coup, ils disent, ben non, t'es pas le bon, t'es pas la bonne. Et puis, ils changent, ils voient que c'est la même chose. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et peut-être le... Au fond, ce qu'il faut faire, c'est commencer un travail sur soi-même. C'est de dire, ne pas écouter la blessure, on va voir comment gérer un peu rapidement, hein, mais ne pas l'écouter, savoir mettre une distance avec mes émotions pour pas que, voilà, je vois que tu es là, toi, anxiété, toi, colère, je vois que tu es là, et de demander, avec une dimension spirituelle, on va y venir, aussi au Seigneur de nous aider à ce qu'on appelle la maîtrise de nous-mêmes, qui est un des signes de la maturité, et qui est un aspect très important dans la relation amoureuse hein, et dans la construction du couple. Hein, donc, je pense que c'est... voilà, quand on voit qu'on se laisse déborder, voilà, c'est dire, ben voilà, pourquoi je réagis de cette manière. La blessure, autre point, donc dans les conséquences de la blessure, elle limite ma capacité de don. Elle limite, quelque part, ma capacité d'engagement. Hein, particulièrement tout ce qui a à voir avec la peur, l'anxiété, l'insécurité, le manque de tout ce qui a à voir avec le manque de confiance en soi, etc., etc. Ça, on voit des personnes, moi j'accompagne des couples, etc., il y a beaucoup de mal à passer à l'acte. Alors je dis, mais est-ce que c'est lié à quelque chose d'objectif je sais pas, vous êtes engueulé, vous êtes... Non, mais... Et du coup, on voit des relations, là, pas plus tard que samedi, j'ai marié un couple, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Et du coup, c'est vrai que ça, comme prêtre, ce n'était pas tellement mon schéma, mais bon, ils ont eu des hauts et des bas, ils ont fait des pauses, etc. Mais grosso modo, 7 ans ensemble, vraiment ensemble. Mais je trouve que quelque part, peut-être il faut du temps aussi pour mûrir et pour découvrir en soi-même ce qui nous empêche de rentrer dans le don de nous-mêmes. Mais bien souvent, c'est ça, c'est des conséquences des blessures qui fait que j'ai une peur et qui fait que l'engagement, quel qu'il soit, engagement associatif, engagement professionnel, engagement affectif, l'engagement quel qu'il soit, ben, je reste comme bloqué. Je vois des personnes qui n'avancent pas, parce qu'elles ont peur de souffrir encore, parce qu'elles ne prennent pas conscience aussi des charismes qu'elles peuvent porter, des talents qu'elles peuvent porter. Et ça, je pense qu'aussi, il y a un autre regard, on va le voir un peu comment sortir de ça. Et donc, ça limite la blessure, ça limite la fécondité de ma vie. Présenté comme ça, ça la limite. Si on ne fait rien, encore une fois, si on ne fait rien, si on, parce qu'il y a aussi parfois un déni où, en plus de la blessure, il peut y avoir l'orgueil. L'orgueil qui fait qu'on ne reconnaît pas qu'on est blessé. De même que c'est très difficile à un alcoolique qu'il reconnaisse qu'il est alcoolique. Enfin, tout le monde sait ça. Non, mais on a eu, il n'y a pas très longtemps, en communauté, on a accueilli une personne pendant plusieurs mois, etc. On le voyait clairement qu'il terminait les bouteilles, qu'il en planquait, on était obligé de fermer les placards à alcool, etc. Ah non, mais je ne suis pas alcoolique. « Oh, mais je termine un petit peu, là, toujours une... » Voilà, il ne se rend pas compte. Et donc, jusqu'à temps, une première manière d'en sortir, c'est se rendre compte, prendre conscience de ce que j'ai. Et parfois, l'orgueil est là et m'empêche justement, m'empêche une fécondité à ma vie parce que je ne prends pas les moyens d'un travail sur moi-même et les moyens d'une guérison. Parce que qui dit blessure, dit aussi guérison. Que ce soit au plan physique... Mais comme on s'est fait un bobo, on s'est entaillé la jambe, on s'est cassé, voilà, des blessures physiques. Mais ce qu'on apprend du corps, c'est que s'il y a des blessures dans le corps, bah, dans la majorité des cas, il y a aussi une guérison possible. Donc, trois choses, les conséquences qu'on peut y avoir. Donc, difficulté dans la relation, difficulté dans la gestion de ses émotions, difficulté dans la capacité de don et donc dans l'engagement et la limite de la fécondité. Comment en sortir ? Ça vous intéresse. Comment en sortir ? Parce que je pense que c'est ça, c'est la vraie question, c'est ça, comment en sortir ? Premièrement, prendre conscience. Et c'est vrai que l'aide d'un professionnel, comme par exemple un psychologue, peut tout à fait être, à mon avis, bénéfique. Et ce n'est pas parce qu'on est fou, qu'on va voir le psychologue, qu'on est fou. Non, c'est juste que j'ai besoin d'une personne dont c'est le métier, de découvrir un peu et peut-être de dénouer en moi des choses qui se sont nouées mais à l'envers si vous voulez qui parce qu'on voit les enfants parfois ils se font des nœuds dans la tête etc. ils sont persuadés de ne pas être aimés alors que leurs frères ou leurs sœurs au contraire ont dit bah, que j'ai eu des parents formidables et c'est la même fratrie et ça on le voit ça au quotidien donc d'avoir et c'est là où il y a l'humilité. Est-ce que je prends là, je pense à un cas de personne là que j'accompagne vers le mariage. Je lui dis, voilà, une personne qui n'arrive pas à gérer sa colère. Bon, il se trouve, assez providentiellement, que je vais chez eux, et je dîne chez eux, etc., et j'aborde avec le garçon cette difficulté, parce que je l'avais vu, justement, s'emporter de façon excessive. Et il me dit, en me désignant la porte, je voyais un papier sur la porte, une affiche sur la porte, etc., mais derrière la porte, il y a un grand trou. Le type, il avait tapé dans la porte. Il a explosé la porte. Après, ça m'a fait un bien. Ah, qu'est-ce que j'étais attendu. Alors après, oui, d'accord, mais quand tu auras explosé toutes les portes, c'est ta femme, c'est contre ta femme que tu vas... Bon, et je lui ai dit, ça, est-ce que tu comprends que ça, c'est problématique dans une vie? T'imagines tes enfants faisant ça? Qu'est-ce que ça peut provoquer de terreur, voire de terreur en eux. Parfois, des colères comme ça, ça provoque parfois une terreur. Les enfants qui sont apeurés. On voit les traumatismes liés à la guerre, etc., c'est encore plus horrible. Mais rien qu'à des actes comme ça, un enfant, c'est une éponge. De voir son père, parce qu'il n'arrive pas à gérer pan, et donner un grand poing dans la porte, et exploser la porte, parce que je ne sais pas quoi, son portable avait... Il n'a pas pu. Alors je lui dis, consulte... Il y a quelque chose en toi, et je le connais par ailleurs, je lui ai dit, plusieurs fois, j'ai vu que tu montais sur tes grands chevaux, tu étais parti en live, alors qu'il n'y avait pas motif. parce que c'est, par ailleurs, il est hypersensible, mais une sensibilité qui n'est pas du tout équilibrée. Donc, là, je vais, c'est la dernière fois, la prochaine fois qu'on se reverra pour la préparation au mariage, je te pose, qu'est-ce que tu as posé comme acte? Est-ce que tu es allé voir quelqu'un? Vous voyez le fait d'aller voir quelqu'un, de demander de l'aide? Parce que la vraie question, c'est comment faire pour ne pas reproduire? C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Comment faire pour ne pas reproduire? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'il se trouve aussi que son père, que je connais bien par ailleurs, est aussi violent, a eu des accès de violence. Pas forcément sur lui, physique sur lui, non, mais il l'a vu dans une colère, il l'a vu dans, voilà, dans un état second qui fait que, parce que lui-même aussi n'arrive pas à gérer ses émotions. Lui-même est une personne à vif et du coup, voilà. Et je lui dis, mais, et ensuite, qu'est-ce que tu vas donner? C'est ça que tu vas donner à tes enfants? Et ta femme, elle va en penser quoi? Et tu penses que tu supporteras ça, un homme comme ça, toute sa vie? C'est là où on a prise, vous voyez. Peut-être la colère, je n'ai pas prise. Quelque part, il n'a pas à se confesser de donner un grand point et d'exploser, d'exploser la porte. Hein, ça fait marcher le commerce comme ça, par ailleurs, donc c'est assez sympathique. Donc, il n'a pas... En revanche, il doit très clairement se confesser, je n'ai pas pris les moyens d'en sortir. Et là, tu avais prise. Là, tu avais prise. Là, tu avais un espace de liberté. Mais parce que tu es orgueilleux, parce que nous le sommes tous, eh bien, tu n'as pas voulu prendre les moyens de t'en sortir et d'en sortir. Et ça, je pense que là, on a aussi une responsabilité. Parce que la difficulté, c'est un deuxième point, une des difficultés de ne pas sortir de la blessure et de ses conséquences, c'est la victimisation. C'est probablement le déni. Non, je n'ai pas de problème. Mais non, c'est juste un petit coup de pied comme ça que j'ai donné, et puis les portes de maintenant, ça ne vaut pas comme les portes d'avant, etc. Voilà. Et on justifie, voilà. Pareil, un garçon, c'était la même chose. Lui, c'était dans les murs. Il donnait des grands points dans les murs. Comme les murs, c'est plat au plat, du coup, il avait explosé une bonne partie de son appartement. Mais par ailleurs, charmant. Mais vous voyez, c'est ça. C'est des gens charmants. T'appuies sur un truc, waouh, tu te retrouves avec un océan de violence en face de toi, alors que tu as juste appuyé sur la sonnette, quoi. Mais t'as une mauvaise sonnette, c'est tout. T'as pas appuyé au bon endroit. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, la victimisation. Il y a des personnes qui prennent conscience qu'ils ont été victimes de quelque chose, peut-être à tort ou à raison, mais ne prennent pas les moyens, quelque part se repaissent de leur propre état de victime. Vous voyez? Et ça, c'est clairement quelque chose qui n'est pas bon. Et clairement quelque chose dans lequel vous avez prise. Nous avons prise. Comment ne pas reproduire, donc prendre conscience, demander de l'aide? Et puis, je crois aussi comment en sortir, c'est poser des actes, des petits actes. Moi, je suis vraiment un grand fan des petits actes. Parce qu'il ne faut pas dire, oui, voilà, ensuite on part en prendre dans des grands, on part dans des grands embardés, il faut que je change tout dans ma vie, tout doit. Non, non. Qu'est-ce que tu peux faire à ta portée qui puisse t'aider à gérer un peu mieux tes émotions? Et à ne pas faire subir à tes proches, parce qu'en général, c'est à 90% les proches qui subissent, épouse ou mari ou enfant, ou voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas faire subir à tes proches les conséquences de ce que toi, tu estimes être une blessure? Et ça, je pense que... quels petits actes? Un des actes qui me paraît très important, c'est de demander pardon. La réconciliation. Et je lui ai posé la question à ce jeune homme. Est-ce que tu as demandé pardon à ta fiancée? Bien, oui, il a demandé pardon. Non, c'était bien. Je lui ai dit, ça tu vois, bon. Mais ça c'est un petit acte. Ou un grand acte. ça dépend, parce que si on a notre orgueil par rapport à ça, il faut faire attention, un obstacle au fait d'en sortir, c'est la rationalisation. Ça veut dire quoi la rationalisation? C'est-à-dire, je me donne des raisons pour agir comme j'ai agi. Mais de toute façon, c'est normal, regardez, tout le monde le fait. Hein? Mais non, j'ai l'alcool festif, regardez, si on peut plus s'amuser maintenant, alors qu'il y a une vraie dépendance. Et donc, je pense que, je trouve que ces petits actes, et c'est important de se poser la question, à ma portée, où j'ai prise, encore une fois, où je ne suis pas face à la colère, je ne suis pas face à cette vague de violence qui me submerge. On a tous de la violence en nous, contre les autres ou contre nous-mêmes. Mais là, je ne suis plus là-dedans. Je suis, au contraire, dans une attitude de dire, je prends conscience... Et je pose un acte, demander pardon, consulter, demander de l'aide, ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Ne pas être dans le déni. Voilà. Ne pas être dans le déni. Et puis, tirer les leçons de l'expérience. Ça veut dire être sur ses gardes. Ça veut dire quoi? Je sais que dans telle circonstance, dans telle situation, je sais que je vois bien parce que je vois que j'ai réagi de telle manière. Je sais que quand je suis face à un hiérarchique dans mon métier, et quel que soit le hiérarchique, parce que j'ai changé plusieurs fois de métier et plusieurs fois de hiérarchie dans le même métier, eh bien je sais que j'ai réagi parfois de façon méprisante ou au contraire, j'allais au conflit. Voilà, j'ai pris conscience de ça. Eh bien, du coup, de tirer les leçons de l'expérience. Tirer les leçons de l'expérience, c'est-à-dire être sur ses gardes. Je sais que va venir une rencontre, par exemple, comme l'entretien annuel d'évaluation, bon, donc avec un hiérarchique. Je sais que j'ai parfois de la difficulté avec tout ce qui représente l'autorité. Comme par anticipation, je vais me préparer pour que je puisse avoir assez de retenue. Et c'est là que vient aussi la dimension spirituelle. Et je pense que faites bien la différence entre la dimension psychologique et puis la dimension spirituelle. C'est pas pareil. La dimension psychologique, c'est des choses que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, hein, sur lesquelles on n'a pas forcément prise. La dimension spirituelle, c'est mon rapport à Dieu, mon rapport au Seigneur. C'est pas parce que je suis blessé, c'est pas parce que j'ai moi-même des difficultés que je ne suis pas appelé à la sainteté. C'est pas parce que même des personnes comme le père, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le père Liberman, qui est fondateur des Spiritains ou... un ordre missionnaire au XIXe siècle. Père Liberman avait une maladie psychiatrique. Et au XIXe siècle, c'était un empêchement pour être ordonné prêtre que d'avoir une maladie psychiatrique. C'est pas psychiatrique, c'est... Si, c'est... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai une autre maladie, c'est que j'oublie. Donc, voilà, quand il y a des convulsions, comment on rentre dans des convulsions épilepsie, voilà. Épilepsie. Il était épileptique. Et du coup, il a mis beaucoup de temps à être ordonné prêtre. Parce qu'au XIXe siècle, ça avait parfois la peur de la quantité de séminaristes. Ça a un petit peu changé depuis. Mais non seulement il a fondé un ordre missionnaire, mais en plus, il a été, je pense, béatifié, si je ne me trompe pas, ou en voie de l'être. Il a fait de sa blessure un lieu de fécondité. Et ça, je pense que c'est ça la dimension spirituelle. Ne prétendons pas être impeccable, arriver à une maîtrise complète de nous-mêmes, être lisse de partout, bien, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a des choses qu'on gardera jusqu'à notre tombe. Il y a des colères, il y a des découragements, il y a des peurs, il y a des anxiétés, il y a des recherches désordonnées de plaisir, etc. C'est des choses qui sont tellement profondément, et puis plus il y a la répétition des actes qui visent à compenser la blessure, plus cette répétition des actes vient de la creuser, cette petite blessure, et vient l'enraciner dans mon humanité qui fait que j'ai de moins en moins prise. En revanche, c'est pas parce que je suis blessé que je ne peux pas porter du fruit et que je ne peux pas avoir une vraie relation avec le Seigneur. Nous croyons en un Dieu blessé. Car il me faut un Dieu, dit la petite Thérèse, qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Nous croyons en un Dieu blessé qui nous a sauvés. Et c'est Jésus qui ressuscite, non pas comme un superman bodybuildé, etc., mais ta main dans mes plaies, dans mon côté, mes tes doigts dans les plaies des mains. Il ressuscite avec ses blessures. Et ça, c'est... Ça me paraît mais une source d'espérance considérable. Il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas changer dans notre vie. Qu'est-ce que je vous dis ? Malgré le fait de consulter, malgré le fait de poser des actes, malgré le fait de... Il y a des choses comme les expériences d'abandon, des enfants qui ont été abandonnés, par exemple, ou qui ont eu le sentiment d'être abandonnés. C'est des choses tellement profondes dans l'âme qu'on peut travailler sur un certain nombre de choses, en tout cas des conséquences dans notre caractère, etc. Oui, on peut, mais c'est tellement profond. Mais en revanche, est-ce que je ne peux pas en faire ça une source de fécondité? Et ça, je pense que notre foi chrétienne nous aide beaucoup là-dessus. Parce que nous croyons en un Dieu blessé, mais nous croyons en un Dieu aussi qui vient dans nos blessures mettre le baume de son Saint-Esprit. Il vient guérir, il vient... que cette blessure porte du fruit. Il vient que cette blessure porte du fruit. On voit comme ça des personnes qui... C'est souvent le cas des personnes qui ont eu des très grands destins, mais qui ont commencé dans beaucoup de misère, dans beaucoup de misère morale ou de beaucoup de souffrance. Et je pense que de ce côté-là, comment s'appelle-t-il à celui qui a écrit plus fort que la haine là. Guénard, Tim Guénard, merci d'être ma mémoire. Tim Guénard, vous voyez, il a eu un choix à faire. Un type qui était placé par le juge, il a été dans la délinquance, dans la dépendance de la drogue, dans la violence, etc., dans le banditisme, bon, bref, tout ça parce qu'il ne s'en sortait pas. Il y a eu deux grâces dans sa vie, la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec sa femme. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui aide les autres. Et nous croyons que c'est possible. Ayez foi que dans votre vie, même si vous voyez qu'il y a des choses qui déraillent, mais ayez foi que dans votre vie, vous pouvez construire et bâtir et rayonner parce que le Seigneur lui-même, il est là présent et il vous donne de le faire. Non pas par vos propres forces, mais par la grâce de Dieu. Qui ne viendra pas de façon magique résoudre nos difficultés. La foi, ce n'est pas la magie. La prière, c'est pas la magie. On a beau prier, mais mon père, j'ai prié tant de fois pour obtenir la guérison, pour avoir une maîtrise de moi-même plus grande. J'ai prié tant de fois pour ceci, pour cela. Il y a des choses qui resteront dans notre vie. Hein, comme dit saint Paul, de façon mystérieuse, hein, le Seigneur a mis dans ma chair un aiguillon. Vous connaissez peut-être cette parole, ce passage dans saint Paul. Alors tout le monde dit que c'est peut-être parce qu'il n'arrivait pas à dominer ses pulsions par rapport à la chasteté, etc. Donc il a mis pour que je ne puisse pas m'enorgueillir de moi-même. Et nos blessures ont aussi une portée pédagogique pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir de nous-mêmes. Que nous puissions, même si nous mettons tout en œuvre, nous restions dans une certaine humilité. Parce que pour s'en sortir, il faut aussi de l'humilité. Et une patience avec soi-même. Et un pardon et une miséricorde avec soi-même. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. Mais est-ce que moi-même, je suis dans ces blessures-là, je les mets dans sous le regard du Seigneur et je laisse le Seigneur dans la prière, dans le sacrement de la réconciliation, prenez les moyens spirituels qui sont humains. J'allais parler de la question de la psychologie et de l'accompagnement psychologique dans certains cas, mais spirituel aussi. Et je, moi, pour ceux qui m'écoutent déjà depuis plusieurs fois, etc., Vous voyez, il faut bien tenir les deux. Il ne faut pas dire, mais non, son, la foi n'a rien à voir là-dedans, etc. On va faire que de l'humain. Et il ne faut pas spiritualiser les affaires, laissant de côté le soutien que peut apporter un professionnel. Vraiment les deux, vrai Dieu et vrai homme. Nous croyons, c'est ça, vrai Dieu et vrai homme, la personne de Jésus, vraiment humain, vraiment divin. Et les moyens que l'on prend pour s'en sortir, c'est des moyens humains et c'est des moyens divins. Et les moyens divins, c'est les moyens de la grâce. Et où est-ce que se trouve la grâce? C'est dans les sacrements. Et je pense que la grâce viendra parce que, précisément, je suis dans une attitude d'humilité. Je me laisse aider. Je me laisse aider par un professionnel. Je me laisse aider aussi dans un accompagnement spirituel. Je laisse quelqu'un, un regard extérieur, c'est pas évident. Un regard extérieur plongé dans ma vie avec ce qu'elle peut avoir de beau, mais avec ce qu'elle peut avoir aussi de laid. Et de choses dont j'aimerais me débarrasser, mais il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour changer. On ne le sait que trop. Alors oui, je crois que c'est pour nous cette invitation ce soir à nous remettre dans une attitude de profonde confiance. Quelque chose qui n'aide pas à sortir des blessures, c'est vouloir tout contrôler. Être dans une forme de renfermement sur soi-même, d'être dans un contrôle permanent. Ça n'aide pas. Comme ça, de tout vouloir contrôler, construire autour de soi une sorte de petite barricade ou grande barricade de forteresse, parce que justement, je me planque derrière, on verra pas trop mes souffrances, on verra pas trop mes blessures, mes mauvais côtés, ou alors aussi pour ne pas être atteint de l'extérieur et souffrir à cause de personnes qui peuvent parfois être toxiques. C'est vrai qu'il y a des personnes toxiques, ça existe, des personnes toxiques. Ça n'aide pas. Sauf que la confiance est beaucoup plus porteuse de fécondité, vous permettra de porter du fruit. Si vous voulez être dans le contrôle, il y aura une fécondité qui ne sera pas au rendez-vous. Si vous rentrez dans la confiance, c'est-à-dire dans une certaine humilité qui consiste à demander pardon, à prendre les moyens dont on a parlé, humains et divins, et entre autres le moyen de la confession, de remettre au Seigneur ses difficultés, ses blessures, ses souffrances. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de se confesser parce que, j'allais dire, on répète souvent la même chose. Je vous rassure, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Ah ben mon père, j'ai un truc là. Ah, vous n'allez pas croire vos yeux. J'ai tué père et mère. Là, vous n'allez pas vous ennuyer cette fois-ci. Là. Non, c'est pas ça qu'on demande. Bah oui, je me suis mis en colère, je médis, c'est des choses, j'ai essayé de trouver une compensation de façon désordonnée dans différentes ressources qui m'étaient bonnes. Bah, c'est pas facile de se confesser régulièrement et de dire, bah tiens, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je reconfesse toujours la même chose? Parce que parfois même, ça peut nous être une tentation et nous faire perdre la foi dans la force du sacrement de la réconciliation. Mais dire, mais ça fait tant d'années que je me confesse de ça. Mais est-ce que la grâce ne vient pas de l'humilité? Voilà. C'est ce que dit Saint Benoît. Saint Benoît, il dit, quand on va se confesser, on fracasse la tentation contre le Christ. Je viens présenter au Christ mon combat. Mes défaites. Alors oui, si vous restez simplement avec une dimension humaine, on peut vite tomber dans une désespérance sur soi-même. Ou s'enfermer dans un personnage, se construire, je vous disais, une forteresse. Devenir inatteignable. Mais le bonheur n'est pas au bout de ce chemin. Il n'y est pas. Le bonheur, il est au bout d'un autre chemin, le chemin que Jésus lui-même a pris. Il a pris sur lui nos blessures. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Et nous sommes les seuls, les chrétiens, à croire en un Dieu blessé, qui est une source d'espérance considérable, considérable. Et notre responsabilité est considérable par rapport à ça. Parce que justement, on apporte à l'humanité, par l'exemple du Christ, eh bien, une véritable bouffée d'oxygène. Nous ne sommes pas livrés à nos psychologies blessées. Nous ne sommes pas que le fruit de nos psychologies blessées. Et quand un garçon et une fille qui cheminent ensemble et s'approchent de l'autel pour demander la bénédiction du Seigneur dans le sacrement du mariage, eh bien, j'aime bien dire que le mariage, c'est d'abord l'union de deux pauvres qui se mettent à l'écoute du Seigneur, qui n'ont pas peur de montrer l'un à l'autre leur pauvreté, et c'est un des signes de la maturité dans l'amour, c'est que je n'ai pas peur de montrer à l'autre ma pauvreté, ma fragilité, ma vulnérabilité. Mais nous, chrétiens, nous ne voyons pas la vulnérabilité comme une menace, mais comme une main tendue, comme une grâce qui nous est faite pour ouvrir le cœur à l'autre. C'est très différent comme manière de vivre. Le disciple de Jésus, quand il contemple Jésus blessé, eh bien, et qu'il voit cette force d'amour qui sort de sa personne, il dit par le baptême, j'ai reçu aussi cette capacité d'aimer dans mes blessures. Et donc il y a des personnes qui ont des grandes fragilités, des histoires parfois lourdes au niveau familial. J'accompagne un couple et elle, une fille super, elle a eu une famille extrêmement difficile à tel point que des violences elle a été le souffre-douleur de son père, mais physiquement. À tel point qu'il a fallu une ordonnance du juge pour éloigner le papa et qu'il ne peut plus s'approcher et qu'il est évident que si un jour elle se marie, le papa ne sera pas invité au mariage. Et on comprend pourquoi. Et elle me disait dans les larmes aux yeux, mais j'étais très touché, etc. Elle dit, je me rappelle d'une scène où ma petite sœur de 5 ans s'est interposée entre moi et mon père. Elle n'a jamais su pourquoi elle était souffre-douleur de son père. Elle n'a jamais su. Mais vous voyez, je trouve cette fille-là, elle a un rayonnement. Pourtant, t'en as bavé. Hein. Il y en a. Pourtant, famille bien sous tout rapport, avec force de particules et compagnie. Hein, bon. Oui. Et puis habitant plutôt vers 78 que dans le 9-3. Mais j'espère que ça ne veut rien dire. Vous savez, hein, mais voilà, je trouve que ce qui est beau dans cette fille-là, c'est qu'elle en a fait part à son fiancé. C'est vrai que ça ne peut pas ne pas avoir, quand ça atteint une telle importance, ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences. Elle me dit, mais. Et lui, le fiancé, dit, mais qu'est-ce que ça aura comme conséquence dans notre couple? Comment est-ce que tu te projettes comme mère? Est-ce que tu sens que... Et du coup, elle a fait un vrai travail. Elle a vraiment fait un travail et psychologique, d'aide, etc., de session aussi de guérison. Alors, vous entendez ça aussi, vous avez pu entendre parler des sessions qu'on appelle agapé, hein, c'est des sessions qui permettent, souvent pendant une semaine, ben, on se remet sous le regard du Seigneur et on laisse le Seigneur venir guérir, ce qui n'empêche pas de prendre les moyens humains qui vont bien pour aussi avancer. Mais vous comprenez bien que je me mets à la place des personnes qui sont psychologues, et peut-être parmi vous, il y en a un certain nombre qui exercent ce métier. À un moment donné, vous vous trouvez face à un mur, une fois que vous avez détecté tout, ah oui, ça vient de ceci, qui a provoqué cela, donc tu as fait telle association et qui fait que tu poses tel acte, ok, on a bien vu, c'est bon. Et so what? Et qu'est-ce que j'en... Et après? Est-ce qu'il y a encore une espérance? Mais non, je sais, c'est la première étape. Mais je me mets à la place de beaucoup de psychologues qui arrivent à un moment donné, parce que ils ne peuvent pas changer l'humanité de leurs patients, enfin, par définition. Je veux dire, ils n'ont pas prise, et c'est tant mieux, ils n'ont pas la capacité de guérir, ils ont la capacité de débloquer un certain nombre de choses aussi, de faire avancer, certainement. Mais j'imagine, et pour avoir le témoignage de certains, qu'ils arrivent à une limite. et que ça doit demander une très grande humilité, justement pour ne pas être le sauveur de l'autre qui vient consulter. Mais c'est là où je trouve que notre foi chrétienne, elle est une vraie source d'apaisement et de... Voilà, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande juste de mettre... On a obligation de moyens, on n'a pas obligation de résultats. C'est pas pareil. Est-ce que tu as mis tous les moyens en route pour avancer dans ta vie? Tu n'y arrives pas, mais est-ce que tu as mis les moyens? Est-ce que là, tu as mis les moyens? Et je trouve que, pour revenir à ce couple-là, je trouve assez touchant, parce que lui aussi, par ailleurs, a un certain nombre de blessures, etc. Mais je ne sais pas s'ils arriveront au mariage, j'en sais rien, ensuite c'est leur choix. Bon, mais si un jour ils arrivent au mariage, je trouve qu'ils ont fait de leur amour un lieu aussi de guérison, parce que c'est l'amour qui guérit. Même si on ne prend pas l'autre comme une béquille, on est bien d'accord, hein, parce que ça mène nulle part. Mais un amour, sachant la blessure de l'autre, je t'accepte tel que tu es, tous les jours de ma vie. Dans la joie et dans les épreuves. C'est très émouvant, l'échange des consentements. C'est vertigineux. Dans un monde de zapping où les relations, voilà, mais c'est vertigineux. Nous sommes la religion de la disproportion. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de commune mesure entre ce à quoi nous sommes, ce que nous pouvons faire humainement et ce à quoi Dieu nous appelle. Dans mon humanité de prêtre, qui est une humanité blessée par les différentes choses de ma vie. Et quand tu prends conscience de ce qu'est un prêtre, c'est le vertige qui te... C'est de la part du Seigneur, une persona Christi, dans la personne même du Christ, je te pardonne. C'est pas Jésus te pardonne, je te pardonne. Et quand je donne le pardon, c'est le Christ lui-même, par ma bouche, par mes mains, qui pardonne. Et pourtant, je suis blessé. Et pourtant, je fais des actes que je regrette, et pourtant, je me confesse et je leur demande pardon. Et peut-être certains actes, je demanderai pardon jusqu'à la fin de mes jours. Mais justement, cette disproportion dans ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés, cette disproportion-là, il va falloir... vraiment, c'est le lieu vraiment de l'espérance. Et le mariage, c'est l'union de deux pauvres qui viennent au pied de l'autel demander la grâce et implorer d'être unis par le Christ lui-même et de faire de leur pauvreté un lieu de richesse. Est-ce que vous avez des questions ? Pas tous en même temps. Oui.
Comment s'en prendre que les ennemis, si on ne se rend pas forcément compte de nos faiblesses et de nos agissements qui peuvent faire que...
Alors, dans ces cas-là, c'est bien de demander à ceux avec qui on vit. Par exemple, un mari me dit... je ne sais pas quoi confesser, mais je dis, posez la question à votre femme. Et là, vous sortirez avec une liste, préparez la rame de 500 pages, la ramette de papier de 500 pages, parce que là, il va y en avoir du lourd. Et il faut, il y a des choses dont on ne se rend pas compte. C'est vrai ce que tu dis. Il y a des choses dont on ne se rend pas compte. Voilà, quand je suis rentré en communauté, par exemple, la communauté religieuse, pour ça, c'est redoutable. C'est redoutable parce qu'on est persuadé que tous les autres ont reçu la même éducation et ont la même sensibilité et ont la même... J'étais très affectif, j'étais peut-être trop sensible, trop affectif, etc. Et puis je voyais des frères parfois, justement, très soupçonnés, mais 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Mais ça montait avec... Oula, je suis, je n'étais pas habitué à ça, ma famille. Ma famille, c'était pas de vagues. Hein, comme ça, on voit dans les filles. On sait, il y a les familles où on crie, il y a les familles où on se tait. Donc, du coup, on dit rien. Et là, moi, ma famille, c'était. Voilà. Et du coup, j'ai appris à rentrer. Du coup, j'étais dans une attitude de vouloir être le bon frère. Et j'en ai pris quoi. Et du coup, de ne pas rentrer en conflit. Et j'ai appris à rentrer en conflit dans la vie religieuse. Parce que cette attitude-là, elle n'était pas en place dans ma vie. C'est-à-dire, de vouloir quelque part plaire, d'être le gentil, d'être le. Voilà, de faire tout. Et en face, t'en as un, paf, t'envoies un truc. Oh là, oula, tu te dis, ouf, paf, direct du gauche, là, bon. En parole, hein, je vous rassure, ça, on n'est pas encore passé aux actes. Mais. Du coup, l'autre est un miroir. Et du coup, je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais à force de travailler sur soi-même, on ne reste pas dans la vie religieuse si on ne travaille pas sur soi-même. Et je pense que la vie de couple, c'est un peu différent parce qu'on se choisit. La vie religieuse, on ne se choisit pas. Et peut-être on ne se serait surtout pas choisi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vous dis ? C'est la réalité. Mais c'est ça qui est la beauté de la vie religieuse. C'est que c'est des hommes ou des femmes. Communauté féminine aussi, c'est une grande preuve de l'existence de Dieu, mais des hommes ou des femmes, voilà, qui ne s'étant pas choisis, veulent vivre un amour jusqu'au bout, par grâce de Dieu. Alors je pense que c'est bien de dire, on ne s'en rend pas compte, mais du coup, on voit avec ceux avec qui on vit. D'autres questions ? Oui, bien fort.
Oui, je pense, je voudrais savoir si vous avez question à lui donner sur la manière d'évoquer sa blessure dans son entourage, ses amis, qu'on peut exprimer.
Alors oui, l'exprimer, alors avec modération, c'est-à-dire que. Alors, bon. Alors, attention, on se calme. Parce que si tu. Une jeune femme que tu viens de rencontrer, tu lui dis, voilà, tu sais, je suis parano, je suis maso, je suis majeur. Oh là, oh là, tu la vois en train de partir, de faire son 4 Non, je pense que déjà, mais merci parce que il y a des choses qui ne sont pas à dire à tout le monde. Il y a des fragilités, je pense dans le monde professionnel, n'est pas un lieu pour dire ses fragilités. Ça ne veut pas dire que les autres ne s'en rendent pas compte, mais ce n'est pas un lieu. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire de ma fragilité. C'est ça la question. Qu'est-ce que l'autre va faire de ma vulnérabilité ? Et donc, je pense qu'il y a progressivement, je pense en tout cas dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, il y a une forme de progressivité. Mais il est clair qu'il est, si soi-même, on a vécu des choses qui impactent ou impacteraient ou impacteront le couple ou la famille, il est clair qu'on doit se les dire. Et on doit... C'est absolument évident. On ne peut pas rentrer, ça même dans certains cas rendrait le mariage nul, dans une vie à deux, si hein, il y a des choses, je pense par exemple des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels. Évidemment, une question comme ça, on ne peut pas la passer sous silence. Mais ce n'est pas la première chose qu'on va dire dès qu'on se rencontre. Donc, parce que là, c'est aussi ça. Parce que du coup, ce n'est pas la question, on se dit, mais l'autre n'a pas forcément un bon discernement. Donc, mais c'est sûr que ça parasite le discernement. Mais du coup, je pense qu'il y a une progressivité de... Avec chacun, on doit dire des choses différentes. C'est un peu logique. Enfin, c'est pas qu'on est différent, on est le même, mais c'est juste qu'on se livre de façon autre, que ce soit une personne avec qui on va construire un couple, on est déjà une démarche de préparation, ou un ami qu'on vient de rencontrer, ou un hiérarchique dans la vie professionnelle. Oui.
Au niveau de ce que je disais, dans un couple, il y a des choses, des blessures qui nous appartiennent à ce soir, à son propre. Est-ce que c'est un manque d'idée ou est-ce que les blessures qui peuvent être liées et qui sont personnelles, dans un couple, on est tout le monde
tout. Non, c'est tout nous va. C'est-à-dire, même si on ne le dit pas, ça finira par se savoir. Surtout dans la vie commune. Parce qu'on ne peut pas se mentir dans la vie. Tôt ou tard, ça se finit par savoir. Et puis je trouve que c'est quand même, pour le coup, le couple, c'est le lieu de la confiance. Oui, mais je parle de blessures objectives, Alors maintenant, c'est sûr que si tu as eu un accident de poussette et donc du coup tu en ressens une douleur et un nul autre pareil, bon, c'est vrai que ça n'a qu'un intérêt limité, mais on n'est pas obligé de le dire à l'autre. Mais maintenant, des choses dont tu verrais, ou dans ton âme, dont tu verrais qu'il y aurait des conséquences sur le couple. Si c'est des choses anecdotiques, c'est qu'on n'a pas à se faire. Le conjoint n'est pas un thérapeute. Dans ce sens-là, je suis d'accord. C'est surtout pas. Et surtout pas commencer une relation de couple comme une relation d'aide. Alors, c'est l'abomination de la désolation. Là. Ça, c'est sûr que ça va dans le mur. On n'est pas. Il y a une réciprocité. C'est pas l'un qui aide, même si ça m'aide par ailleurs, mais ça m'aide par ricochet. Hein, donc, je pense que c'est. On doit quand même se dire, maintenant, il y a des choses bon, qui sont anecdotiques, qu'on résout soi-même et qui n'ont pas. Parfois, j'étais blessé, mais de façon excessive par telle ou telle chose. Mais c'est bien aussi de dire à l'autre, il y a telle de tes attitudes qui m'impacte. Je pense que c'est bien de le dire aussi. Maintenant, il y a des choses qu'on résout aussi soi-même. Il faut voir ensuite au cas par cas, c'est difficile de répondre en général. Quoi, mais c'est une dernière question. Oui. Quel conseil apporter aux personnes qui ont du mal à se décider, à se lancer pour s'engager ? Les petits actes. Parce qu'on est avant, je pense, le grand engagement dans une vocation matrimoniale ou religieuse, sacerdotale, qui sont des grands engagements. Quels sont les autres engagements qui ont été pris ? Quels sont les qu'est-ce qui a fait que tu ou cette personne-là, par exemple, une chose que je conseille beaucoup dans la dimension de couple, c'est les fiançailles. C'est-à-dire les fiançailles, vous savez, sont faites pour être rompues de façon heureuse par le mariage et malheureuse par la séparation. Mais les fiançailles, vous voyez, c'est une étape. C'est pour ça, moi, je crois que parfois trop vite, trop. Ça n'aide pas la ceinture l'amour. Ça tue l'amour. Parce que justement, le fait de faire des petites étapes, demander la main, ça peut paraître. Demander la main, je trouve ça, pour un garçon, c'est très fort aussi de déclarer sa flamme. Je veux dire, et puis faire comprendre que si à un moment donné, il n'y a pas de passage, j'accompagne parfois des couples comme ça, il n'y a pas de passage à l'acte. Eh bien, ça ne va plus être possible, quoi. Parce qu'on ne peut pas non plus attendre éternellement, quoi. C'est souvent les garçons qui sont moins pressés, en général, hein, donc, que les demoiselles, mais est-ce que, c'est de dire, si tu tiens à moi, à un moment donné, même si tu cherches à mettre toujours des obstacles entre nous, maintenant, s'il n'y a rien d'objectif, si ce n'est ta blessure, elle peut être un lieu de communion. Donc je pense que c'est là où on a une responsabilité, vous voyez, c'est là où quand même on a un espace de liberté. Il y a des choses sur lesquelles on peut avancer, sur lesquelles on peut s'engager. Avant le grand engagement, justement, qui est le mariage, l'engagement devant le Seigneur et la communauté. Avant de terminer ce topo, déjà merci pour votre écoute vraiment attentive et profonde. J'aimerais vous inviter à quelque chose qui me tient à cœur. Alors, c'est un peu la page pub, si j'ose dire, vous pouvez prendre ça comme ça. Une retraite que je prêche en fin d'année à l'abbaye d'Ourscamp, une retraite sur le discernement. Et où j'aborde de façon peut-être plus approfondie ces questions-là, et qui sont faites justement pour votre génération, hein, les 25-35. Mais je te dis, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que bien souvent, les blessures nous font poser des actes, viennent parasiter notre discernement. Et je pense que cette fin d'année aussi, ou que ce soit, du coup, on passe un temps avec la communauté des frères, que vous verrez, mais mes frères, que maintenant j'ai choisi, voilà, oui. Mais bah, on passe dans la prière, le réveillon, on le passe dans la prière. On passe. Et bon, voilà, en tout cas, je voulais vous l'inviter. Vous allez sur le site serviteur.org, qui est le site de la communauté. Mais c'est important de. Je trouve que bien souvent, des actes que l'on pose viennent de discernements parasités par des blessures que l'on a pu avoir. Un grand merci pour votre attention.